Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur de nous donner la force et la puissance de son esprit pour continuer à faire ses études bibliques. Il y a des choses parfois que nous faisons sans discerner les réalités qui sont derrière, parce que il y a des choses comparables dans le monde qu'on faisait qui ressemble à ça, notamment le fait de prendre la parole, de parler, de discuter des thèmes. Ça paraît comme semblable à ce qui se passe dans le monde, mais il faut comprendre une réalité, bien aimée, c'est que quand il s'agit de choses spirituelles, il y a des luttes, il y a un travail spirituel invisible qu'on ne voit pas, il y a l'intervention de l'Esprit Saint, l'intervention des anges, mais il y a aussi l'intervention des démons pour s'opposer. Donc du coup, il est vraiment juste de remercier le Seigneur de pouvoir faire son service, parce qu'il y a une vraie opposition qui existe, mais qu'on ne voit pas, mais que les gens acteurs subissent et réalisent. Voilà, donc c'est juste de remercier le Seigneur d'en arriver au livre de Psaumes, de continuer, c'est par sa grâce, parce que, comme on va le voir dans le psaume 124, si Dieu ne nous avait pas protégés, mais l'ennemi nous aurait avalés, détruits, nous aurait submergés comme des torrents d'eau. Mais nous revenons à nos psaumes qu'on a appelés le psaume Alléluia. Donc, il y en a beaucoup, mais on est en train de vivre une de ces séries. Voilà, donc il y a la série de psaumes 104 à 106, 111 à 113, 115 à 117, 135 à 136 et puis 146 à 150. Et celui qu'on est en train de traiter, il fait partie d'un groupe qu'on appelle le grand Hallel. Voilà, le grand Hallel, le psaume 115 au psaume 118. Voilà, donc nous attaquons le psaume 117. 117.
Psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à jamais. Louez l'Éternel.
Amen. Voilà, louez l'Éternel, vous toutes les nations. Ce psaume va nous faire faire une sorte de pause dans l'étude sur les psaumes qu'on fait depuis un moment, parce que c'est un psaume charnière, parce que il introduit clairement le fait que Dieu veut être loué par toutes les nations, tous les peuples. Vous savez, c'est quelque chose qui ne passait pas au milieu des Juifs, mais ça se trouve dans leurs Écritures. C'est pourquoi Jésus dit, vous lisez les Écritures, mais vous ne comprenez pas. Mais parce que c'est clairement dit, louez Dieu, louez l'Éternel, vous toutes les nations. C'est un psaume qui est important dans sa petitesse en écrit. C'est le psaume le plus court. Et donc, on peut le prendre beaucoup plus comme une conclusion, plutôt à la différence des autres psaumes qui ont quand même de la matière à discuter, à méditer. Là, c'est beaucoup plus une conclusion, une pensée qui nous est donnée. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. On s'adresse aux nations, ce qui n'est pas quelque chose que le juif considéré comme possible. Mais là, on s'adresse aux nations. Louez, célébrez-le, vous tous les peuples. C'est un tournant clairement montré là. Car il a été bon envers vous, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Alléluia. Voilà ce que ça veut dire. Louez l'Éternel. Le livre de psaumes est comme clôturé par ce psaume 117 qui n'est pas la fin des psaumes, hein, mais c'est un psaume conclusion, un psaume résumé. Quel est l'objectif du livre de psaumes? C'est louer l'Éternel. Au fait, c'est comme si Dieu nous a donné beaucoup de textes. Il y a des textes historiques, il y a des textes poétiques, de sagesse, il y a des textes sur la loi, et il a pensé aussi au chant, à l'adoration et à la louange, en nous donnant le livre de psaumes. C'est un livre essentiel. Et d'ailleurs, il est pratiquement au milieu de la Bible. C'est un livre essentiel. C'est un livre clé. Parce que c'est pratiquement dans ce livre-là qu'est concentré toute sorte de louange à Dieu. Voilà, le livre de psaumes. Et je me souviens quand nous, on était encore païens, on a eu à recevoir parfois les Nouveaux Testaments Gédéon. C'était des Nouveaux Testaments bleus comme bleu, et parfois ils le font aussi blanc. Mais dans ce Nouveau Testament, il y avait, après les Évangiles, le livre de Psaumes aussi. Ils avaient, parmi tous les livres de l'Ancien Testament, rajouté le livre de Psaumes à l'Évangile. Et même, pas que dans ce Nouveau Testament de Gédéon, dans d'autres Nouveaux Testaments aussi, il y a des gens qui ont pensé à rajouter à la fin le livre de Psaumes. Parce que c'est un livre clé de plusieurs manières. C'est un livre qui contient les révélations sur le Messie plus que tous les autres livres. Et d'ailleurs, le psaume suivant qu'on va étudier, le psaume 118, est un psaume aussi magnifique, hein, qui parle clairement du Messie. Ça fait partie des psaumes messianiques. Voilà, donc le livre de psaumes, un livre clé, un livre de louange, un livre d'adoration, ça doit accompagner l'enfant de Dieu partout. C'est pourquoi justement, les bien-aimés, même s'ils sont de la Nouvelle Alliance, ils ont fait le Nouveau Testament, ils ont rajouté quand même les psaumes, parce que ça nous accompagne notre vie, la louange, ça doit accompagner notre vie, l'adoration, jusqu'à dire, donner un message direct aux nations. On voit ça dans ce livre-là, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. On loue Dieu, pourquoi? À cause de sa bonté. À cause de sa bonté. C'est quelque chose d'extraordinaire que on considère que le centre de la louange sur Dieu, ce n'est pas la beauté de la création, quoique déjà appelant à la louange, mais c'est sa nature propre qui est amour et bonté. Quand on connaît Dieu ainsi, on ne peut que chercher cet amour et cette bonté-là. Louez Dieu, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Nous allons passer au psaume 118, comme on a dit, un psaume messianique, mais un psaume rempli de richesses, voilà, et à tel point qu'on aurait pu le traiter que lui tout seul aujourd'hui, mais on va voir le psaume 118 qui va nous dire la bonté de Dieu dont il est question. C'est quelle bonté? On nous en parle dans le psaume 118. Finalement, cette bonté se manifeste par la pierre de miséricorde qui est Jésus. Nous allons lire ça dans le psaume 118.
Psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme.
Voilà. On s'arrête là pour en première partie pour dire la miséricorde du Seigneur s'est révélée aux bien-aimés qui ont écrit ça et se révèle à tous ceux qui craignent l'Éternel. Et cette miséricorde intervient au moment, on la voit clairement au moment où on est faible. Quand on est faible, c'est là qu'on réalise par son action de secours, on réalise la miséricorde de Dieu. Et il cite tout ce que Dieu a fait pour lui, que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure toujours, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Bien-aimé, quand on est dans la détresse, c'est le moment d'invoquer l'Éternel en fonction de sa miséricorde. Que nos raisonnements ne viennent pas à bout de nous. Nos raisonnements qui nous disent que ça fait longtemps que tu fais appel à lui, il n'intervient pas. Nos raisonnements qui nous disent « ton erreur a été trop grande, c'est fini pour toi. » Il ne faut pas suivre tout cela. Il faut crier à Dieu. Il est miséricordieux. Ces gens qui ont écrit ont vécu des choses parfois plus graves que nous, mais ils ont vu la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi, comme je l'ai dit précédemment, ils insistent sur l'amour, la bonté et la miséricorde de Dieu comme sujet central de nos louanges. Et ça, ça va nous aider beaucoup, même dans l'évangélisation, à réaliser que Dieu est, en réalisant que Dieu est bon et amour, on va évangéliser avec beaucoup plus d'aisance, conscient que Dieu s'occupe vraiment de toucher le cœur. Il ne cherche pas à amener les gens en enfer. Il cherche à les sauver. Il faut prendre conscience de ça. Et ces psaumes-là du grand Hallel nous font sentir cette bonté de Dieu et cette miséricorde de Dieu qui est la cause centrale de la louange en son nom. Voilà. Que peuvent me faire les hommes? Donc, quand je suis avec Dieu, sa miséricorde est telle que, quels que soient les jugements des hommes, Dieu me sauvera. C'est ça, sa miséricorde. Et nous allons voir à la fin du psaume, quelle est la production principale de la miséricorde de Dieu, la pierre principale. Nous allons continuer, verset 10.
Verset 10. Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignaient comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel.
Amen. On s'arrête là encore un instant. Il dit... Toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Là, on voit le grand nombre qui nous environne pour nous faire du mal Et aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, pour nous, ce grand nombre-là, c'est le grand nombre de démons aussi. Il y a les humains, mais il y a le grand nombre de démons que nous ne voyons pas, qui veulent notre perte. Et il nous est dit qu'au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Donc dans la prière, on triomphe de tout cela. Et d'un côté, on voit le « je », donc une personne, et de l'autre côté, on voit toutes les nations. C'est pour nous dire quoi? Même quand on est en petit nombre, Dieu peut nous donner une victoire éclatante sur le grand nombre, sur les grands défis, contre les grands démons. Dieu peut nous donner de grandes victoires par rapport à ça. Comme j'ai raconté une fois, une fille de 15 ans environ, comment à travers elle, Dieu a triomphé d'un homme qui régnait sur tout un village. Ce grand magicien-là, ce grand sorcier, il régnait sur tout un village. Et cette fille est venue visiter ses parents dans ce village. Et cet homme a voulu la prendre comme concubine. Et elle a refusé vertement. En disant à cet homme qu'elle était chrétienne, elle ne pouvait pas faire ce genre de choses. Et cet homme, comme d'habitude, il s'est dit qu'il allait la voir par ses sortilèges. Et comme ça ne marchait pas, il lui a tendu un piège. Du retour de la rivière où elle lavait leurs vêtements avec les autres femmes, il s'est transformé en serpent, guettant, caché dans les herbes et attendant que cette fille s'approche pour la mordre, de sorte que, comme dans ce village, c'est lui qui est réputé comme étant le guérisseur, de sorte qu'on lui amènerait cette fille-là. Et c'est là qu'elle s'occupera vraiment de lui donner des potions pour l'endormir ou pour faire du mal, en tout cas. Et quand la fille s'approchait, quand elle marchait avec les autres, elle chantait des louanges à Dieu. Elle glorifiait Dieu. C'est pourquoi les psaumes, c'est important. C'est important. C'est les louanges. Adorer Dieu. Glorifier Dieu, c'est attirer aussi sa présence. Parce qu'il est écrit, comme on va le voir dans le psaume 122, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et cette fille-là a commencé à louer Dieu, ne connaissant pas tout ce qui se passe là. Comme je vous ai dit, nous faisons des choses, ça paraît normal, mais en tant que chrétien, en réalité, il y a des réalités invisibles. Elle marchait avec toutes les femmes. Ça paraît un geste normal, une activité normale. Mais, étant chrétienne, elle était visée par les mauvais esprits. Nous sommes visés. Nous sommes visés. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'elle approchait de l'endroit où le serpent s'était caché, le monsieur qui était devenu le serpent, il voyait de la bouche de cette fille, non pas de la musique sortir, mais du feu qui sortait. Et plus elle s'approchait, plus le feu aussi s'allongeait. En s'allongeant, le feu commençait à s'approcher de là où lui il était. Bien sûr, il a fui avec la vitesse du serpent. Et il s'est dit qu'il doit utiliser des puissances plus grandes. Et il a attendu qu'il fasse nuit. Et il est venu pour essayer, par des sortilèges, sortir l'esprit de cette fille-là et l'envoûter. Et donc, quand elle arrive à l'endroit où la fille passait la nuit, il voit comme une sorte de muraille très haute entourer l'endroit. Du coup, il ne pouvait même pas voir la fille. La muraille l'empêchait de voir. Et par ses sortilèges, il s'est envolé pour passer au-dessus de la muraille. Et quand il a voulu passer au-dessus de la muraille, il se rencontre nez à nez avec l'ancien des jours, quelqu'un à l'allure d'un vieillard, mais brillant, les cheveux brillants qui le regardaient. Et il est tombé comme une pierre, comme un sac. Et ce jour-là, il a donné sa vie à Jésus, il s'est converti. Toutes ses puissances sont parties et il s'est dit que Jésus seul était la vérité et qu'il devait aller avec lui. Voilà comment tout un village est libéré par une fille de 15 ans. Comme on a vu dans le psaume 115, Dieu est au milieu de son peuple. Mais comment on va le voir dans le psaume 122, il vient au milieu de son peuple à travers la louange et l'adoration. C'est très, très, très important. Donc, les nations m'environnent, mais dans la louange, je suis vainqueur. Psaume 18, 4 le dit aussi, « Je me crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » C'est ça qui est répété là. « Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. » Mais pourquoi il va te secourir? Parce que tu reconnais sa grandeur, parce que tu loues son nom. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Amen. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Les justes louent Dieu. Et à la fin, nous verrons l'objet principal de la louange. Le sujet principal, ça va être le Fils. Donc, nous continuons. Verset 19.
Verset 19. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours.
Amen, 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 amen. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voilà, verset 18, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Il peut arriver, bien-aimé, que l'Éternel nous châtie, mais ce n'est pas une raison pour nous éloigner de lui. Parce qu'il ne nous livrera pas à la mort. C'est un honneur pour lui de nous sauver. Souvenons-nous de cela. C'est un honneur pour Dieu de nous sauver. C'est une joie pour lui de nous sauver. Le Seigneur ne cherche pas, mais il dit qu'il ne cherche pas la mort du méchant. Il veut qu'il vive. C'est une gloire pour Dieu de sauver le méchant. De transformer un être mauvais en quelqu'un de bon. C'est une gloire pour lui. Et donc souvenons-nous, même quand nous estimons que nous avons été châtiés, souvenons-nous de retourner, rappelons-nous de retourner au salut. C'est très important. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Là, il y a le côté physique, parce que c'est des champs qui étaient faits au temple. Il y avait la porte, la porte des justes, il y a une porte que les gens prenaient pour aller célébrer Dieu. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. Mais maintenant, quel est ce salut-là? Ça nous est donné dans le fameux verset 22, psaume 118, 22. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est le sujet principal de ce psaume 118. Il y a un développement pour aboutir à ça. La miséricorde de Dieu se manifeste par cette pierre qui est devenue incontournable. Parce que sans cette pierre-là, tu n'es pas dans la miséricorde de Dieu. C'est la pierre principale. C'est pas il y a eu des choses avant lui. Jésus dit, il y a eu des choses avant moi, mais c'est moi la véritable. porte. C'est moi le véritable salut. Et il dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Jésus-Christ cite lui-même il cite ce verset dans la parabole des vignerons. Donc on peut lire dans Matthieu la parabole des vignerons, dans Matthieu 21. Du verset 33.
Matthieu 21, verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour, puis la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils disent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pièce qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle ? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige, à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète.
Voilà, Jésus lui-même cite ce verset qu'on a lu du psaume 118, 22, il dit, mais comment vous comprenez ce verset-là? Il dit, mais c'est ça qui se passe là. Dieu a envoyé des prophètes pour vous dire la vérité. Vous les avez tués, vous les avez maltraités. Maintenant, il se dit, il m'envoie, moi, son fils, par rapport à sa vigne, pour vous demander des comptes, vous, les vignerons, que Dieu avait installés. Qu'est-ce que vous vous dites? Ah, c'est l'héritier, on va l'éliminer comme ça, il n'y a plus personne, c'est nous qui allons régner. C'est ça la réalité des pharisiens, des sadducéens, des sacrificateurs de l'époque. Cette réalité-là est continuée par les rabbins d'aujourd'hui. La majorité des rabbins d'aujourd'hui continuent ce système-là de voler la vigne du Seigneur, d'en faire leur propre champ. Et ils ne laissent pas le Seigneur régner sur sa vigne. Du coup, ils rejettent encore le Messie. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Le psaume 118 nous parle du Messie. C'est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Parce que quand par exemple, les Juifs aujourd'hui, j'aimerais bien en rencontrer un, lui poser la question, comment tu interprètes ce verset 22, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Comment ils interprètent ça? Jésus donne l'interprétation. Il s'agissait bien sûr de lui-même. Et il est dit, c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Voilà, Jésus qui a été rejeté finalement, c'est lui qui est la pierre incontournable dans le monde entier. Et dit, si quelqu'un cogne sur cette pierre-là, eh bien il tombe. Quiconque va chercher à combattre Jésus va tomber. quand Jésus manifestera sa justice, eh bien, il écrasera tous ses ennemis. Et c'est ça, et ces pharisiens-là, eh bien, ils seront bannis à jamais. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire encore, il ne faut pas chercher ailleurs. La solution à tout, c'est Jésus. C'est la pierre principale de l'angle bien-aimé. Rappelons-nous cela. C'est la pierre principale de l'angle. C'est Jésus. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un pasteur, c'est Jésus. Quiconque néglige cette pierre va se retrouver en difficulté. Ce n'est pas non plus ta ferveur chrétienne, ce n'est pas ça qui va te sauver. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur. C'est sur lui que tout doit se reposer. Ta foi, ta ferveur doit venir de lui, doit se reposer, doit avoir comme base Jésus-Christ lui-même. Si ce n'est pas ça, il y aura toujours des problèmes. Et c'est ici la journée où tu rencontres Jésus, où tu réalises tout ça. La journée, quand Jésus-Christ vient, ben c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Souvenons-nous, à la naissance de Jésus, les anges ont chanté de joie. Ils ont dit paix aux hommes qu'il agrée. Voilà. Donc, ils ont dit, voilà. Ils ont fait une louange et ils ont dit paix aux hommes que Dieu agrée. C'est un grand jour quand le Seigneur vient dans la vie d'une personne. C'est le jour du changement. Tout change. La personne devient une nouvelle créature. La personne trouve maintenant le sens de la vie. Il a retrouvé le Créateur. Vous savez, quand moi, je suis les actualités à la télé, tout ce qui se passe, j'entends des explications qui tiennent sur l'économie, sur la culture, sur la géopolitique, comme on dit aujourd'hui. Mais en réalité, quand vous lisez la Bible, quand vous écoutez les paroles de Jésus, vous avez les vraies explications de ce qui se passe. C'est la pierre principale. C'est lui qui donne l'explication à tout. Donc, notamment dans Apocalypse chapitre 13, il nous dresse le tableau de tout ce que les choses vont devenir. Et il dit, il avait demandé à Jean d'écrire ça et de faire que les gens lisent et comprennent. Ce sont les paroles du Seigneur. C'est la pierre principale. Quand on lit les paroles du Seigneur, on peut interpréter tout ce qui se passe. Il y a un côté géopolitique, il y a un côté économique, il y a tout ça. Mais la vraie explication, elle est spirituelle. Et c'est comme ça que on peut agir dans toutes les sphères de notre société en utilisant les paroles de Jésus. On a les explications à tout ce qui se passe. Même s'il y a des choses humaines à comprendre, mais il y a plus que ça, c'est la racine, c'est les réalités spirituelles. Il est la pierre principale, il est celui qui accorde le salut, verset 25, « Ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité. » Verset 26, lui-même aussi encore cite ça, mais on ne va pas aller encore retrouver là où il a cité. Il dit, il est écrit, « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Il a cité ça le jour où il a fait le dernier repas. Il a dit, « Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » C'est la phrase que les Juifs citeront au retour du Seigneur. Quand le Seigneur viendra les délivrer, ils reconnaîtront qu'il venait du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Verset 27, l'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'au corps de l'autel. Là, c'est physique. Hein? La victime, c'est la victime qu'on veut sacrifier pour adorer, pour louer le Seigneur. Là, on voit bien que ces psaumes étaient sérieusement chantés au temple. Et là, ce verset-là nous montre une image de ce qui se passait. On attache la victime, on l'amène. Vous savez, l'autel qui était sur le parvis, voilà, l'autel de rein qui était sur le parvis avec ses quatre cornes. Voilà, et on pose la victime là, c'est là que se passaient les choses. C'est là que d'ailleurs, c'est cet endroit, à cet endroit-là que tout le monde pouvait se retrouver, parce que après, ce ne sont que les sacrificateurs qui pouvaient entrer dans le lieu saint, dans le bâtiment, mais dans le parvis, à l'entrée du lieu saint, il y avait cet autel-là des reins. Et on dépose, attacher la victime avec les liens, amener-la jusqu'aux cornes de l'autel, c'est la louange. C'est en même temps une préfiguration du sacrifice de Jésus. Voilà. Donc c'est la louange, c'était ce qui se passait physiquement. Mais quand on lit à partir du verset 22 jusqu'au verset 29, on comprend que on nous parle de Jésus, de son sacrifice et du fait que c'est lui qui est le salut et la pierre de miséricorde, la pierre angulaire. C'est grâce à Jésus, enfin Jésus est la manifestation de la miséricorde de Dieu au maximum, à son paroxysme. Et on voit, il le dit lui-même aussi dans Jean 13, au premier verset, il dit que maintenant qu'il se dirigeait vers la croix, il aima ses frères au maximum. Voilà. C'est l'amour maximal de Dieu est manifesté par le don de Christ. Ça, c'est la force du psaume 118. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alors donc, tu peux dire avec assurance au verset 17, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Parfois, il y a eu une malédiction lancée sur toi, une prophétie satanique contre toi, un complot ourdi contre toi. Tu dois dire, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. La parole, c'est notre défense, c'est notre épée, c'est notre bouclier en même temps. Voilà, gloire à Dieu pour ce psaume. Nous écoutons quelques questions avant de passer au psaume 119.
Question Internet. Pasteur, je ne sais pas chanter, mais je mets les chants de louange et d'adoration. Est-ce que là, je loue mon Dieu?
Le plus important, ce n'est pas la musique. Le plus important, c'est la foi dans les paroles. Donc, si on écoute et qu'on participe avec foi dans ce qui est dit, c'est très bien. Voilà. Si on croit en ce qui est dit dans les paroles et qu'on confesse cela dans notre cœur, c'est très bien. Mais toutefois, tout le monde peut toujours chanter d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, même si c'est avec des erreurs, on est tout seul, on ne gêne personne, il n'y a pas de problème, on doit s'exprimer, quoi.
Deuxième question. Sachant que Satan était le chef de la louange, ne se sert-il pas de la louange afin d'amener à une sorte d'extase diabolique dans certaines assemblées?
Non, il ne se sert pas de la louange. C'est de la musique du monde qu'on a, qu'on a adaptée aux choses de Dieu. Ce n'est pas la musique. Satan va fuir la louange. La vraie louange va faire fuir Satan, puisque c'est fait avec foi, avec sainteté, avec vérité. Ce qu'on dit là, c'est en réalité de la musique du monde avec des mots chrétiens dedans, quoi. C'est ça qui fait que beaucoup de gens tombent dans le péché, parce que c'est pas de la musique qui glorifie Dieu, mais c'est de la musique pour mettre de l'ambiance et produire des émotions dans la chair. Et ces émotions-là, nous les ressentions quand nous aussi, on était païens, avec des musiciens païens. Ça fait partie des choses que beaucoup de chrétiens ignorent ou négligent. Ils pensent que dès qu'on se sent bien en émotion, ou une sorte de force, une sorte de joie pendant qu'il y a une musique, que c'est forcément du Saint-Esprit. Ah non, ça peut être de la chair, parce que nous, on a senti les mêmes choses quand on était dans la chair et qu'on n'était pas chrétien. Non seulement on n'était pas chrétien, la musique, elle était du monde, mais on ressentait une certaine force, une certaine chaleur, et même on pouvait pleurer. Voilà. Il y avait une force dans ces musiques-là, mais les démons donnent aussi de la force. Mais comme tout gâteau empoisonné, ça finit par ta destruction. Mais au départ, il y a comme une certaine force, un certain goût, un bonheur. Voilà. Et il ne faut pas considérer que dès qu'on sent la chaleur, on se sent bien, que Dieu nous approuve. Non, il faut, pour que Dieu approuve quelque chose, il faut que ça soit conforme à sa parole. S'il y a la conformité à sa parole, s'il y a la source qui chante est conforme à Dieu, eh bien, tous et s'il y a la simplicité et la nature de Dieu dans tout ça, mais c'est ça qui fait que, quand tu écoutes, on n'est pas contre le fait qu'on se sente bien, qu'on se sente comme une chaleur, comme une force, mais cette force-là est soutenue, a pour base la vraie parole de Dieu, des bonnes intentions sur Dieu. Voilà, c'est ça. Les bonnes sensations ne disent pas toujours que c'est Dieu qui est la source de cela.
Au verset 10 et 11, le narrateur est seul contre tous. Est-ce que parfois les attaques du diable ne visent-elles pas à nous faire céder afin de, entre guillemets, rentrer dans son rang comme la majorité?
Oui, le but du diable, c'est de créer un faux troupeau qui le suive en enfer. C'est ça le but. Et on a déjà fait une étude sur le nombre, pour expliquer que dans le nombre, souvent se cache la puissance du diable. Le nombre en lui-même est une sorte d'opposition à Dieu, parce que le nombre procure une force humaine, une force charnelle qui a tendance à éclipser la force divine, celle que Dieu lui-même donne. Voilà, donc c'est le nombre est souvent un ennemi de Dieu. Effectivement, le diable va toujours vouloir impressionner par le nombre. Quand il vient t'attaquer, il vient toujours en masse. Il vient, on le voit, mais ça a marché. On a vu ça a marché pour le Covid. Ils envoient sur tous les plateaux de télé des experts, des médecins, des professeurs qui disent la même chose, qui font peur de la même manière aux États-Unis, en France. Et quand ce nombre-là vient, ce n'est pas tout le monde qui peut résister à ça. Et tout le monde se soumet au discours. Vous savez, ce n'est pas nouveau. Dans les années 60, dans les années 50, nous, on n'était pas encore nés, mais les anciens le disent. En Europe, les gens étaient toujours dans la crainte que l'URSS attaque l'Europe. Et dès qu'il y avait une info sur la Hongrie, sur qui était un peu des pays comme frontière, dès qu'on disait qu'il y avait un mouvement là-bas, les Français, les Britanniques allaient déjà faire leurs provisions. Et il y a dernièrement des gens des services secrets américains qui ont dit que c'est eux qui inventaient tout ça. L'URSS n'allait jamais attaquer, mais ils inventaient tout ça pour créer une atmosphère qui oblige les Européens à accepter l'aide des Américains. Voilà. Donc, mais ils utilisent le nombre. Dans toutes les télés, ils passent. Et voilà, ce nombre-là fait que quand quelqu'un est seul, il se dit, bon, vaut mieux que je me range du côté du grand nombre. Voilà. Effectivement, oui.
Moi, je suis très louange et adoration. Et chaque fois que je suis très concentré, je vois des petites étoiles autour de moi. Est-ce que c'est la présence du Saint-Esprit ?
C'est pas ça le plus important. Je ne peux pas savoir, je ne sais pas. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ta louange soit vraie dans le cœur, que tu crois ce que tu chantes. C'est le plus important. On peut même chanter et qu'on ne se sente pas forcément bien, mais on est convaincu de ce qu'on chante. C'est ça qui est important. Voilà.
Est-ce qu'on peut prier tout en écoutant un fond de musique sur un appareil?
Oui, il n'y a pas de règle. Hein. Voilà. Voilà. Au fait, l'essentiel, je vais rappeler l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous croyons en ce que nous disons. Nous le pensons vraiment. Donc, il faut qu'on pense à ce qu'on dit, qu'on considère que c'est vrai, qu'on le dise consciemment. Voilà. Qu'on soit conscient, qu'on ne soit pas machinal, qu'on ne soit pas répétitif pour augmenter le temps. Non, on est conscient de ce qu'on dit. Seigneur, je dépends de toi, je m'attends à toi. Et tu le dis, tu es conscient vraiment de ça. C'est ça qui compte dans la prière. Après, s'il y a une musique qui nous a aidés, ben, gloire à Dieu.
Donc, la personne qui a parlé des étoiles dit oui, elle croit très fort, mais après, elle a peur.
Peur de quoi ? Ben, je ne sais pas, mais normalement, la présence de Dieu ne nous fait pas peur. Elle nous met en sécurité, elle nous donne... Voilà. Mais là, peut-être qu'il faudrait qu'on voit qu'on prie pour ça. Voilà. Voilà, nous prenons maintenant le psaume 119. J'ai parlé du psaume le plus court, qui était le psaume 117. Maintenant, on attaque le psaume le plus long. Et en même temps, le plus long chapitre de la Bible. Dans le psaume 119, c'est le plus long chapitre de la Bible. Et ça s'appelle un acrostiche. C'est quoi ? Pourquoi ça s'appelle un acrostiche ? Parce que c'est composé des parties qui commencent par la même... Donc, dans un paragraphe, vous avez toujours la même lettre qui commence chaque phrase. Nous, on ne peut pas le remarquer puisque c'est en hébreu que tout ça est fait. Comme ça a été traduit, nous, on ne peut pas voir ça. Même le psaume 9 est un acrostiche. Le psaume 10 est un acrostiche. Mais on ne pouvait pas le remarquer parce que ça a été traduit en français. Mais en hébreu, d'ailleurs, vous allez voir dans certaines Bibles, c'est écrit, avant le premier verset, c'est écrit Aleph. Aleph, c'est la première lettre en hébreu. Donc, les psaumes qu'on va lire de 1 à 8 dans le paragraphe Aleph, toutes les phrases au début commencent par la lettre Aleph. C'est beau, hein, c'est extraordinaire ça. Comment réaliser un tel exploit ? Faire 22 paragraphes et dans chaque paragraphe, les versets qui sont cités commencent toujours par la même lettre. Les phrases qui sont citées commencent toujours par la même lettre. Et là, nous allons attaquer le paragraphe Aleph. Donc le premier, la première lettre de l'alphabet hébraïque, nous lisons psaume 119, qui est consacré à la parole de Dieu. Donc on pourrait dire l'excellence, je ne sais pas quel titre on peut donner à ce psaume-là, l'excellence de la parole, la force de la parole, tout simplement la parole de Dieu. Je vous ai dit que le livre de psaume, c'est un livre central. Voilà, et parce que ce psaume 119, il parle de la parole de Dieu d'une telle manière que, voilà, on a la réponse à beaucoup de questions, on a le respect de la parole qui naît quand on le lit. Et le psaume 117 nous parlait de la louange, voilà, que toutes les nations louent le Seigneur. Nous attaquons maintenant le psaume le plus long, le chapitre le plus long, le psaume 119, Aleph.
Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point l'iniquité, qui ne commettent point d'iniquité, et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement.
Amen. Heureux donc ceux qui sont intègres dans leur voie. Comment ils sont intègres? En marchant selon la loi de l'Éternel. Et la loi de l'Éternel, vous savez, là on va lire une grande quantité de synonymes de la parole de Dieu. C'est aussi la loi de l'Éternel. Et on a vu, heureux ceux qui gardent ses préceptes, il y a encore une sorte de synonyme. En fait, c'est des nuances concernant la parole. La parole de Dieu contient des louanges, contient des récits historiques, contient des instructions, contient des ordonnances, contient des préceptes, des conseils, voilà, des statuts. Voilà. Et tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu. Et ce psaume nous montre toutes ces nuances-là. Et Aleph, c'est quoi? C'est heureux. On est, le paragraphe Aleph nous dit, celui qui garde la parole de Dieu, il est heureux. Il est bien et il ne rougira point. C'est quand il sera devant Dieu, il est tranquille, il n'est pas agité, il n'a pas peur. Parce qu'il garde sa parole. Et c'est aussi un appel à rejeter le péché. C'est écrit au verset 3, qui ne commette point d'iniquité. Voilà. Et qui marche dans ses voies. Rejeter la parole de Dieu, c'est aussi rejeter tout ce qui est contraire à cette parole-là. Nous passons à la deuxième lettre, Bête.
Verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole.
Amen. Alors, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Le jeune homme est aussi capable de se diriger selon la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas seulement pour les vieux, ce n'est pas seulement pour les gens qui ont atteint 40 ans, mais c'est pour tout le monde, même pour le jeune homme. C'est quand le jeune homme suit la parole que ses sentiers sont purs. Vous savez, que personne ne vous trompe. Que personne ne nous trompe. Il y a des conséquences des péchés qu'on commet, même quand on est jeune. Il peut y avoir des conséquences. Un exemple, dans notre jeunesse, si on a été, par exemple, en Arabie Saoudite et qu'on a volé, on peut nous couper la main. Donc, même quand on se convertit, on se convertira la main coupée. Alors, tout ce qui peut vous faire, tout ce qui peut insinuer que vous pouvez, en tant que jeune, pécher encore un tout petit peu et vous corrigerez à 25 ans, à 26 ans, et ils vous mentent, ils vous poussent à la mort. On peut attraper le sida jeune. On peut faire des erreurs. Il y a des jeunes qui sont revenus de boîte de nuit à Rouen, qui ont cogné sur un arbre et qui sont morts. À 16, 17, 18 ans. Tout ça, c'est des mensonges du diable. Le jeune homme peut rendre son sentier, c'est-à-dire que son avenir, il peut le tracer en suivant la parole de Dieu. Et tu verras que ton avenir sera différent. C'est une réalité. Il ne faut pas prendre exemple sur des gens qui racontent qu'à 70 ans, ils ont été sauvés. C'est très bien. Mais ils ont pris le risque d'aller en enfer à 50 ans. Toi, ne prends pas ce risque-là. Dès ta jeunesse, prends le bon chemin. Un jour, tu diras, heureusement que j'avais cédé à Dieu. Parce que quand tu regarderas autour de toi les gens qui n'ont pas connu Dieu, tu comprendras que toi, tu avais fait le bon choix. Donc le jeune homme est appelé à cela. Et puis, au fait, chaque phrase est tellement belle que bon, je ne sais même pas que dire. Quoi. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. C'est ça quoi. C'est une source d'eau vive, la parole de Dieu. Et, voilà. Verset 16, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Voilà, que le Seigneur nous aide à ne pas oublier sa parole. On va s'arrêter là par cette anecdote que donnait Richard Rumbrandt. Il disait que dans leur prison, dans leur détresse, il y avait quelque chose qui les aidait. C'était le souvenir des versets de la Bible. Le souvenir de la parole de Dieu. On ne peut pas savoir combien c'est important la parole de Dieu quand on n'a pas vraiment vécu ces moments-là où ça vient d'un coup te sortir de l'abîme. C'est des gens qui étaient torturés presque tous les jours, qui mangeaient moins bien que des cochons et c'était le rap. La parole était devenue comme une c'est ce qu'elle est. Mais qu'on ne ressent pas quand on est en abondance en Occident. Mais elle est devenue comme ce qu'elle est, une vraie nourriture pour eux. Ils réalisaient vraiment la réalité de sa puissance, mais c'était dans ces moments de détresse. Il dit le fait qu'ils avaient mémorisé des versets bibliques, ça a permis de vaincre toute forme de lavage de cerveau qu'on voulait leur faire en leur faisant écouter des choses du Parti communiste, ceci, cela. La parole de Dieu a été là comme un secours terrible, mais qu'on ne ressent pas aujourd'hui parce qu'on a beaucoup d'autres choses. Mais ce que Dieu veut, c'est que dès maintenant, on fonctionne selon cette parole. Qu'on ne l'oublie pas, qu'on l'utilise pour tout. Voilà. N'attendons pas d'être en difficulté. Même si c'est une réalité que c'est quand on est en difficulté qu'elle vient comme une respiration, un ballon d'oxygène comme ça, te redonner la vie. Je me souviens, je raconte souvent ça, quand j'étais étudiant, on m'avait mis gestionnaire de notre appartement, donc on avait chacun sa chambre, mais on avait des parties communes, la cuisine, les toilettes, et puis bon, une forme de petit espace commun qui n'était pas... Voilà, dans cet appartement-là, il n'y avait pas de salon, voilà, c'était un petit espace commun. Et j'étais devenu chrétien, et un des amis qui était dans l'appartement utilisait ça pour... me créait toujours des problèmes. À son tour, il refusait de cuisiner. Pas méchamment en disant je refuse, oh, mais je suis fatigué, j'aime pas cuisiner tel plat, telle chose. Je suis fatigué. Bon, le ménage encore, il faisait quand même, mais la cuisine, c'était son grand problème. Et moi, à chaque fois, je m'énervais. Je me fâchais et je disais, ce n'est pas parce que je suis chrétien que tu vas me marcher sur les pieds. Mais quand je retournais dans ma chambre, je n'étais pas bien. Même si devant lui, je donnais l'impression de contrôler la situation, de prendre le dessus, de l'obliger à cuisiner pour les autres, parce que moi, pour moi, c'était logique. Il a mangé quand les autres ont préparé, à son tour de cuisiner pour que les autres mangent. Et c'est surtout moi le responsable. Qu'est-ce que je vais dire aux autres ? Donc pour moi, c'était logique de m'énerver et dire, mais attends, donc tu veux profiter que je sois chrétien pour... Ah, donc là, je m'énervais comme il fallait. Mais quand je retournais dans ma chambre, je sentais que j'avais perdu une bataille. Je n'étais pas bien. Ça s'est fait deux fois. La troisième fois, quand je suis retourné dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Parce que les autres fois, je ne demandais pas l'aide du Seigneur parce que je pensais avoir réglé le problème par la colère et l'énervement, par le fait de hausser la voix. Cette fois-ci, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Quand j'ai dit « Seigneur, aide-moi », un verset est venu dans ma tête. Il ne faut pas résister aux méchants. Oh. Alors, quand ce verset est venu, c'est comme si, alors que c'était la journée, hein, j'ai eu l'impression que ma chambre s'est illuminée d'une autre lumière plus puissante que la lumière du soleil. Ça a été comme un éclairage, mais donc c'est ça la solution. Donc cette parole est venue avec tout à la fois. C'est-à-dire que ça m'a éclairé sur le moment, mais c'est comme si ça m'a montré l'avenir, comment j'ai réglé tout avec ce verset-là. Je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà, ça a été un ballon d'oxygène. C'est ça. J'ai attendu la prochaine fois, mais en plus c'était le poisson, il détestait l'odeur du poisson. Alors j'ai dit, mais Alain, moi j'ai déjà acheté le poisson au marché, maintenant voilà, je l'ai déposé dans la cuisine, tu peux y aller pour faire la cuisine. Et quand j'entre là, on était ensemble dans la cuisine, je dis, Alain, bon j'ai acheté là, voilà, tu peux t'en occuper. Il me dit, ah frère, le poisson, tu sais bien que moi, j'aime pas ça. Moi, je dis, mais oui, mais c'est le mardi, parce que c'est le mardi, le jour du souk. Donc, c'est le mardi, donc tu tombes sur le poisson. Et là, il commence à me tapoter l'épaule comme d'habitude. Ah frère, c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Il y a des autres qui ont préparé. Voilà. Donc là, il se prépare à ce que je m'énerve. Mais là, je lui dis, mais écoute, Alain, à partir d'aujourd'hui, si tu refuses de cuisiner, je vais le faire à ta place. Et même le ménage, si tu ne fais pas, je ferai à ta place. Voilà. Que Dieu te bénisse. Ah, frère, mais non, il ne faut pas faire des choses comme ça, en se moquant de moi. Mais non, 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 je vais faire, ne t'inquiète pas. Et depuis ce jour-là, il avait toujours fait son tour, sans problème. Depuis ce jour, et aujourd'hui, il est devenu un prédicateur de l'Évangile. Voilà, bien-aimé, c'est la parole de Dieu est d'une force qu'on ne réalise pas quand on la lit tout simplement, qu'on la voit comme ça, mais c'est quand on est en difficulté que ça vient, tu dis, mais c'est ça qui me manquait. Mais le conseil de ce soir, c'est quoi? C'est que tu n'attendes pas la difficulté, que dès maintenant, tu l'utilises pour tout. C'est comme si tu veux dire que, qui va dire que j'attends d'avoir faim pour prendre de l'argent. Personne, on va prendre. Parce qu'on sait que l'argent, c'est important. On ne va pas attendre d'avoir faim pour prendre l'argent qu'on te donne. Ah non, mais frère, tu peux laisser, j'attends d'avoir faim. Quand j'aurai faim, je prendrai l'argent que tu me donnes. Ah, mais non, ça n'existe pas. On te donne, tu prends. Et la parole, c'est la même chose. N'attends pas que ça soit difficile, la vie, pour que tu réalises son importance. Dès maintenant, tu peux l'utiliser. Dès maintenant, prions le Seigneur. Éternel, nous te remercions pour ce formidable livre que constituent les psaumes. Merci, merci d'avoir inspiré tant de personnes pour nous éclairer, nous les gens de cette époque. Nous prions, Père, que tu nous entraînes dans l'allèle, dans l'alléluia, dans le louer l'Éternel. Nous te demandons pardon parce que nous négligeons cela à chaque fois. Amène-nous par ton esprit plus haut dans la louange. Et nous venons prier également que nous serrions ta parole dans nos cœurs fortement, en considérant clairement que Jésus est la pierre principale, la pierre sur laquelle doit reposer notre foi et tout le reste. Merci Seigneur de nous aider. Merci encore pour tout. Au nom de Jésus. Amen.